au moins qu'on puisse dire, chers frères et sœurs, c'est que le Christ est clair, non ? C'est le Christ qui parle et il est clair, simple, très simple, très très simple. Ce qui constitue l'humanité, c'est l'homme et la femme. C'est ça qui fait la stabilité de l'humanité. C'est ça qui fait la stabilité de nos civilisations. Notre monde repose sur le couple humain. Notre monde repose sur le principe de différence. On se gargarise avec ce principe à longueur de temps. On est tellement heureux d'accueillir les différences, d'accueillir l'autre dans sa différence. Et ce qui est paradoxal et étonnant, c'est que nous-mêmes, on a du moins mal à comprendre qu'il y a un trésor incroyable dans le couple humain. Et surtout, il y a un trésor incroyable dans le projet de Dieu avec le couple humain. Parce que vous avez vu comment réagit Jésus. Il fait référence au chapitre 2 de la Genèse. Comment est-ce que Dieu a créé l'homme et la femme ? Je ne vais pas y revenir en détail dessus. Si vous voulez une petite préparation au mariage, vous n'avez qu'à appeler les sœurs. Mais ce que fait Jésus, c'est qu'il rappelle une chose toute simple, mais dont on a parfois du mal à voir la beauté incroyable. Il dit que l'homme et la femme soient un. Et figurez-vous, chers frères et sœurs, que cette phrase-là n'existe deux fois dans toute l'Écriture. Dans les 72 livres que font l'Écriture, on n'a que deux fois ce mot « ils ne font qu'un ». Parce que ce mot « un » a une signification très très particulière. Et si on en découvre le mystère, vous allez voir à quel point ça peut rendre heureux. Qu'est-ce qui se passe dans le couple humain, dans l'homme et la femme, quand Dieu dit qu'ils soient un? Ça veut dire que Dieu va tisser avec l'homme une alliance. Ça veut dire qu'il va tisser avec la femme une alliance. Et ça veut dire qu'il va exister, il va vivre entre eux dans une alliance mutuelle. Vous voyez, Dieu ne fait pas alliance avec le peuple comme ça, boum, avec un contrat. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est ontologique. Le mariage est un sacrement, c'est-à-dire que c'est une action de Dieu dans la personne humaine. C'est-à-dire que quand deux personnes se marient à l'Église, il se crée dans l'homme et il se crée dans la femme un tissage qui n'est pas seulement un tissage homme-femme, mais c'est un tissage homme-Dieu-femme. C'est un tissage où il y a trois fils. Et c'est un tissage qui est indestructible. 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 On ne peut pas casser ce tissage-là. On ne peut pas casser cette unité. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que Jésus dit, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous quitter les uns les autres, vous tromper, machin. Attention, vous serez adultère, hein, ça veut dire que vous allez être triste, ça veut dire que vous allez... À chaque fois que vous allez refuser de bénéficier de ce tissage, de cette unité, à chaque fois que vous allez refuser d'aller à l'unité, vers l'unité de ce qui fait votre couple, vous allez être triste. Et c'est tout l'enjeu la plupart du temps du début du couple. C'est qu'on s'aime tellement, on est tellement amoureux, la puissance du sentiment amoureux est tellement forte qu'on pense qu'on va pouvoir s'en tirer tout seul. Toi et moi contre le monde entier, dit la chanson. C'est vrai, on est très fort, on est dans notre petit nid, on est enfin, un peu plutôt vous que nous. C'est vrai que les jeunes époux, ils sont marrants à observer. Il n'y a que eux au monde, hein. Alors là, on peut comprendre. Mais ce n'est pas la vérité. Parce que entre eux, il y a la roi. Vous savez ce que c'est que la roi? La roi, c'est un terme hébreu pour dire le souffle divin. C'est pour ça que Jésus fait allusion au chapitre 2 de la Genèse. Vous avez les animaux, soit. Vous avez l'homme, très bien. Qu'est-ce qui différencie l'homme des animaux? C'est vrai, quand vous lisez le livre de la Genèse, alors attention, hein, c'est un récit symbolique, c'est des récits qui ont été pris dans la Mésopotamie du 8e siècle et qui sont utilisés par l'écrivain biblique pour nous raconter des vérités. Ce n'est pas un événement journalistique, vous avez compris. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence entre un animal et un homme? On a besoin de le rappeler parce qu'en ce moment, on est prêt à élire président de la République une chèvre ou une girafe. Hein. Ça pourrait bien finir par exister un jour. Vous voyez bien que dans ce que je dis, il faut aussi lire un peu entre les lignes. Ce qui différencie, c'est que nous avons en nous la roi, nous avons le souffle divin. Et ce souffle divin, cette puissance d'amour que nous avons en nous, les êtres humains, dans le couple, il est adapté par Dieu. Il est adapté par Dieu. Vous prenez le couple, par exemple, Rosalie et Robert. S'il y en a qui s'appellent Rosalie et Robert, vous ne vous sentez pas visé. C'est mon petit couple personnel que je trimballe partout. Qu'est-ce qui se passe dans le mariage? Eh bien, Robert est Rosalie-isé. Et Rosalie, elle est robérisée. Ça ne veut pas dire que Rosalie va perdre son indépendance, sa fougue, ce qui fait sa personnalité, sa beauté, son unicité, et que Robert va perdre ce qu'il est, qu'il va perdre sa masculinité, qu'il va perdre... Ben je dis ça parce qu'on en parle pas mal en ce moment. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire que la roi divine va les adapter l'un à l'autre. C'est-à-dire que la roi divine ne va pas seulement agir dans Robert, mais elle a un écho, cette roi divine, ce souffle divin, dans le cœur de Rosalie. Ce qui fait que quand Robert s'adresse à Rosalie, il y a un travail qui est déjà fait dans le cœur de Rosalie pour Robert. Par qui? Par le Saint-Esprit, par la roi divine, par le souffle divin. Vous voyez pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le couple humain est extrêmement solide. Ceux qui se marient à l'Église, leur mariage est extrêmement solide. Et même mon père, vous nous prenez pour des bisounours ou quoi? Ou alors vous-même, vous êtes peut-être un descendant des bisounours, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a le divorce, etc., etc., etc. On n'est quand même pas mal à avoir divorcé, à s'être marié, machin. On dirait que vous n'y pensez pas à tout ça. Vous ne pensez pas aux personnes qui vivent l'homosexualité. Vous ne pensez pas aux personnes qui sont toutes seules toute leur vie. Bien sûr que si, j'y pense. Je pense même qu'à ça. Mais on oublie de dire, à force de parler de l'homosexualité, à force de parler de divorcé remarié, on oublie de dire sur quoi repose l'humanité. Le filet très, très bien tissé sur lequel tout ça repose, c'est le couple humain. C'est pas les curés, c'est pas les bonnes sœurs, c'est le couple humain. Il n'y a pas d'autre réalité qui existe. La mission du couple est phénoménale. Alors après, sur ce tissage humain, eh bien, il y a tous les cas particuliers. Il y a tous ceux qui sont accidentés. Il y a tous ceux qui sont construits bizarrement, enfin, qui sont construits comme ils sont construits. Moi, je m'en fiche un peu. Et après, il y a tous ceux qui font comme ils peuvent, en fait. Mais tous ceux qui vivent comme ils peuvent, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est. C'est compliqué, c'est complexe, le cœur humain. Le péché originel a fait des ravages dans le cœur humain, ce qui fait que on a du mal à placer notre affectivité, on a du mal à vivre nos pulsions parfois. C'est pas facile, c'est lourd pour certains d'entre nous. Et la vérité pour chacun, si on est honnête. Alors comment faire? mais se rappeler cette vérité toute simple. Nous reposons sur les familles. Nous reposons sur nos familles. Tous autant que nous sommes, quelle que soit notre existence, nous venons de quelqu'un. Et nous avons peut-être des enfants. Et à force de renier cette descendance ou cette ascendance, on se coupe d'un flux vital. À force de dire du mal le papa et maman, à force de dire du mal les grands-parents, on se coupe d'un flux vital. Bien sûr, nos parents nous ont blessés. Maman m'a blessé, papa m'a blessé, mon grand-père m'a blessé, a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire. Oui, très bien, enfin oui. Bien sûr, dans toutes les familles humaines, c'est comme ça. Et ce que je veux dire, chers frères et sœurs, c'est qu'au cœur de tout ce bazar, dans la, pour ne pas dire un autre terme, dans la famille, il y a la présence de la roi divine. Il y a la présence de la roi divine. Il y a la présence de l'esprit. Et tout ça va se développer. Tout ça va être extrêmement fécond. Comment est-ce que tout ça peut être fécond? Ben, on le voit bien, les enfants. Les enfants, vous voyez, les petits-enfants. C'est pour ça que je veux tellement que les enfants soient présents dans cette église. Parce qu'ils sont le témoignage de notre fidélité, de notre amour, vous voyez, de notre fécondité. Seigneur dit... Soyez féconds et multipliés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, deuxième livre de la Genèse. Allez le relire, vraiment, c'est important. Pourquoi est-ce qu'il utilise ces deux mots successivement? Soyez féconds, un, multipliés, deux. J'ai envie de dire au Seigneur, bah, c'est la même chose, non? Soyez féconds, multipliés, voilà, on voit ce que ça donne, un magnifique bébé. Non. Soyez féconds, ce n'est pas multiplié. Et soyez féconds, ça vient en premier. Est-ce que demande le Seigneur, ce que le Seigneur demande au couple humain, à la famille, c'est d'abord d'être fécond, de porter du fruit, et ensuite de multiplier. C'est deux choses différentes. Les enfants, un jour, ils vont s'en aller. Hein, Victor, t'inquiète. Il va s'en aller, il va faire une autre famille. Et toi, tu seras tout seul avec Francesca. Mais oui, mais c'est important. Et si rien n'a été construit avant, et si tout est basé sur les enfants? Quand les enfants s'en vont, crac boum, le couple se fissure. C'est pour ça que ce qui est le plus important, c'est que le couple humain qui est marié ait conscience que sur lui repose toute l'humanité, pas sur les curés ni les bonnes sœurs, pardonnez-moi d'insister. Et donc il faut qu'il se soigne, il faut qu'il prie, qu'il aille à la source. Mais ce n'est pas une option pour un couple humain conscient de ses responsabilités universelles, c'est pas une option de prier, c'est pas une option de demander à l'Esprit Saint de faire grandir cette roi divine. Et après, il y a les enfants, évidemment. Il y a des couples qui ont des enfants, 2, 3, 4, 5, 10, 30, et parfois zéro. Pourquoi? C'est un mystère. C'est un grand mystère. Notez bien qu'Élisabeth et Zacharie, c'était pareil. Hein. Avant qu'arrive Jean-Baptiste, ils n'avaient pas d'enfants. Sarah et Abraham, c'est pareil. Ils n'avaient pas d'enfants. Et pourtant, le bon Dieu les a rendus féconds. Alors qu'Abraham était vieux. D'ailleurs, quand il regarde sa femme et que le Seigneur lui dit « Tu vas avoir un enfant ben, », il dit « Oh Seigneur, on dirait que tu ne sais pas comment ça marche, hein, parce qu'avec celle que j'ai là, on ne va pas aller loin. » Mais si, c'est très bien comment ça marche, le bon Dieu. Mais la fécondité humaine dépasse notre entendement. On a une petite vue de ce qu'est la fécondité humaine. Nous qui sommes célibataires, nous qui vivons notre affectivité, nos pulsions comme nous pouvons, dans un système un petit peu désorganisé, en essayant de trouver la vérité. Voilà, et bien il faut faire comme le couple humain, aller voir la roi divine, aller voir l'Esprit Saint, demander à l'Esprit Saint de nous aider et surtout de nous aider à comprendre une chose, c'est quelles que soient nos bosses, quelles que soient les difficultés de notre couple, quels que soient nos arrachements, quelles que soient nos blessures, quelles que soient nos torsions dans nos vies, quels que soient les gros accidents qu'on ait pu avoir, C'est pas la fin de l'histoire. C'est pas la fin de l'histoire. C'est pas parce que vous avez divorcé, que vous êtes remarié, que c'est la fin de l'histoire. Et le Seigneur, aujourd'hui, ne parle pas de ça. Ça sera le sujet d'un autre sermon. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, reconnaissez que l'humanité repose sur le couple humain. Vous qui êtes mariés, ayez conscience que notre humanité, à nous les célibataires, repose sur votre humanité, à vous les couples. Alors il faut demander à la Sainte Vierge, évidemment. Elle a vécu ce mystère, la Sainte Vierge, de l'unité avec Joseph. Et pourtant, vous voyez, elle est restée vierge, la Sainte Vierge. Et donc Joseph aussi. Et pourtant, leur mariage était valide. Et pourtant, ils ont été extrêmement féconds. Et pourtant, c'était bizarre leur couple quand même. Avoir une femme qui immaculée conception, je ne sais pas si j'aurais beaucoup aimé. Franchement. Et pourtant, ils ont été mais incroyablement féconds. Joseph, aujourd'hui, est d'une fécondité phénoménale. La Sainte Vierge est d'une fécondité incroyable, mais incroyable. On vient du monde entier boire au cœur de la Sainte Vierge. D'où vient cette source du cœur de la Sainte Vierge, de son couple, de cette roue divine qui a agi en elle, entre elle et Joseph. Alors que la Sainte Vierge nous aide, que la Sainte Vierge aide les couples du monde entier, et que la Sainte Vierge vous donne à comprendre que cette aventure humaine du mariage est quelque chose de fantastique et de merveilleux. Pour terminer, je vous livre un secret. Quand j'ai été ordonné prêtre, celui-là il vit, ça c'est sûr. Vas-y, crie. Quand j'ai été ordonné prêtre, je me disais, mais au nom de quoi tu peux dire aux couples, tu peux faire en sorte que les couples grandissent? Comment tu vas faire pour les préparer au mariage? C'est quoi le truc? Et j'avais un bon copain qui s'appelle Jean-Marie Meyer. Lui, il voyait le pape tous les 15 jours. Jean-Paul II. Alors un jour, je l'attrape et je lui dis, dis donc, est-ce que tu pourrais demander au pape de ma part, qu'est-ce que je dois dire au couple? Alors Jean-Marie est sympa, il est fidèle. Il est allé voir, donc il avait rendez-vous avec Jean-Paul II, il pose la question à Jean-Paul II. Et 3 jours plus tard, il vient me voir et il me dit, écoute, de la part de Jean-Paul II, je n'ai qu'une chose à te dire, dis-leur que c'est possible. Amen.